France Musique.
Quel scandale! Berlioz, en rage! Malvenuto Cellini, grand opéra, pasquinade littéraire et arlequinade musicale. À la fin de la parade, une grande statue sera coulée, l'auteur aussi. J'ai été traîné sur la clé. Jamais je n'oublierai les tortures qu'on m'a fait endurer. Mon Benvenuto a été tout simplement égorgé. C'est ainsi qu'Hector Berlioz se souvient de la tumultueuse création de Benvenuto Cellini dans ses mémoires. Égorgé, oui, c'est tout comme, et seulement après 4 représentations. Berlioz a commencé ce premier opéra en 1834 et n'a jamais cessé de le reprendre. 4 ans de travail intense, jusqu'à ce que Duponchel, le directeur de l'Opéra de Paris de la rue Lepelletier, lui donne sa chance. Et là encore, pendant les 6 mois que dureront les répétitions, il devra adapter inlassablement sa partition jusqu'à sa création sur scène en septembre 1838 avec l'échec que l'on sait. L'intrigue ? Une sorte de biopic romantique tissé d'après les authentiques et flamboyants mémoires du sculpteur florentin Benvenuto Cellini. Cellini est le contemporain de Michel-Ange, Vinci et consorts et surtout, entre autres, l'auteur d'un bronze exceptionnel, un percé tenant la tête de Méduse. L'intrigue se déroule donc autour du coulage de cette œuvre mythique, visible aujourd'hui encore sous la Loggia dei Lanzi, Piazza della Signora, à Florence. Alfred de Vigny s'attaque au livret, mais l'abandonne très vite au profit de sa pièce Chatterton. Auguste Barbier et Léon de Vailly, deux plumes exercées, appréciant leur temps, prennent le relais. Quant au pitch général, tout est réuni pour plaire au public. Un 16e siècle chatoyant, passionné par l'art, la ville de Rome pittoresque, pleine d'intrigues de pouvoir et de grands mouvements populaires, un artiste de génie comme personnage principal, grand amoureux, véritable héros de cap et d'épée, et... cerise sur le gâteau, l'accomplissement du grand œuvre de l'artiste entravé par les manigances de ses rivaux. Tout, sur le papier, fait de Benvenuto Cellini un grand opéra historique prometteur. Thank you. Le 10 septembre 1838, soir de première, le public est là. À 34 ans, Berlioz a déjà derrière lui les succès de son Requiem, de la Symphonie Fantastique, de Harold en Italie. Le public se montre donc curieux, impatient même d'entendre son premier opéra. Après tout, des Rossini, des Meyerbeer et Halévy, le public de l'opéra en a presque par-dessus les babines. Le sang frais n'est pas de refus. C'est donc avec un enthousiasme non dissimulé qu'il accueille l'ouverture de Benvenuto Cellini, une ouverture comme on n'en avait pas entendu depuis longtemps. Puis vient l'étonnement. Pas de grand cœur après l'ouverture, mais l'entrée en scène subreptice d'un personnage grotesque sur un fugato. Quelques airs accordés, ça et là, certes un peu de beau chant, mais comme par concession. L'essentiel de l'ouvrage tout entier semble concentré dans un flou orchestral prodigue où les thèmes mélodiques se bousculent et semblent disparaître aussitôt arrivés. Dans la salle, c'est la stupéfaction. On se regarde, on s'indigne, on commence à chahuter. Et c'est avec soulagement que l'on assiste à l'entrée du héros, interprété par le ténor Gilbert Dupré. Oh, ce n'est pas un inconnu. Gilbert Dupré s'est souvent illustré chez Rossini. On respire dans la salle. Et puis, très vite, le malaise s'installe. Non, c'est impossible. Gilbert Dupré n'arrive pas à chanter la partition de Berlioz. Pas lui ! On souffre pour lui ! Alors, dans divers coins de la salle, on se livre aux plus ravissantes pasquinades telles que vociférations sourdes ou cris aigus ou sifflets prolongés ou exercices de ventriloque, le tout entremêlé d'éclats d'un gros rire. Cette première du lundi 10 septembre a pourtant déjà été retardée d'une semaine, parce que ce même ténor était souffrant. Et deux autres représentations sont prévues quasiment coup sur coup, mercredi 12 et vendredi 14. Certes, c'est un rôle d'une exigence redoutable, complexe, qui allie extrême force d'un côté, grâce et légèreté de l'autre. Mais tout de même... Alors, entre la première et la deuxième représentation, Berlioz s'impose de multiples coupes et changements. Mais c'est peine perdue. L'écriture vocale de Berlioz est nerveuse, incisive. Ses récitatifs imposent au chanteur, autant qu'à l'orchestre, une tenue irréprochable.
L'onde frémit, l'onde s'agite, au bord est un jeune pêcheur.
Songez à rivaliser avec Rossini, avec Bellini, avec Donizetti. Pensez à détrôner de telles gloires. Mais il faut appeler cela par son nom. C'est tout bonnement de l'impudence, roucoule quelques dilettanti en gants jaunes. La mélodie, s'écrie la larme à l'œil quelques bellinistes en lunettes. Vouloir sacrifier le chant à l'instrument, la voix humaine à la trompette. Le vendredi soir, pour la troisième représentation, c'est le coup de grâce. Dupré rend son tablier, tout doit s'arrêter.
Tout à coup, sur le lac limpide, s'élève la nef des eaux. La lumière descendre dans mes flots d'azur, vois dans mes flots Phébus plaire et briller d'un éclat plus pur. Vois comme le ciel sans nuages dans mes vagues paraît plus beau. Vois enfin, vois ta propre image qui te sourit du du fond de l'eau.
Berlioz a été pourtant très conciliant avec les uns et les autres. Il a tant retravaillé sa partition que l'on parle de la version de Paris 1 pour la partition initiale et de la version de Paris 2 pour celle qui tient compte de toutes les modifications faites sur le vif. Les amateurs d'opéra sont complètement perdus. Que M. Berlioz retourne à ses symphonies ou saisisse le drame. Son style grimace le rire, ses formes ne sauraient se plier à de petits motifs, chouine le moniteur. Le goût de la mélodie est trop vif chez nous pour qu'on puisse supporter ces tentatives du romantisme musical qui remplacent l'expression par la description et la mélodieuse symétrie par le fracas et par le désordre. Râle le temps. Qu'il cesse enfin ce Napoléon de la triple croche, ce Charlemagne de la gamme chromatique. Vite, il faut trouver un remplaçant à Gilbert Dupré. Ce sera Alexis Dupont. Il apprend sa partition au Débotté, mais ce ne sera guère plus réussi. Il n'y aura qu'une seule et ultime représentation le 11 janvier 1839. Après quoi, exit Benvenuto. 4 représentations seulement. Et ce sera bien assez pour Paris. Scandale ! Berlioz fulmine et doute. Rétrospectivement, ce triomphe d'abord accordé à son ouverture est, selon son mot, exagéré. Louche, en somme. Depuis des mois, il se sentait en butte à l'hostilité et à l'envie. Il se voyait comme dans une arène dans cette salle, où tant de lâches vengeances peuvent s'exercer impunément. Berlioz se refait le film des 6 mois de répétition où il a souffert le martyr. La nonchalance, le dégoût évident de la plupart des acteurs, déjà persuadés d'une chute, oui, c'était prévisible. Les sourdes rumeurs qui circulaient dans le théâtre et la mauvaise humeur d'Abneck, le chef d'orchestre, sa mauvaise volonté manifeste, ses accès de colère, les musiciens coincés entre le chef et le compositeur, toujours en porte-à-faux. Et Berlioz de noter avec amertume « En France, dans les théâtres, les auteurs n'ont pas le droit de diriger leurs propres ouvrages. » Enfin, toujours d'après lui, le directeur du Ponchel lui-même lui était hostile. Il me regardait comme une espèce de fou dont la musique n'était et ne pouvait être qu'un tissu d'extravagance. Alors, Berlioz Benvenuto, seul contre tous ? Délire de persécution ou mise à mort programmée d'un public déçu, choqué, dérouté? Le critique Jacques-Germain Chaudeaigue déclare dans la revue L'Artiste « Avant de donner mon opinion sur la partition que je viens d'entendre, j'ai besoin de déclarer, au nom de la justice, que je n'avais jamais, jusqu'à ce jour, été témoin d'une malveillance aussi réfléchie, aussi acharnée, et cela par anticipation, que celle qui a accueilli l'opéra de M. Hector Berlioz. » Dès avant le lever du rideau, il était généralement convenu, dans les couloirs et au foyer, que la musique de Benvenuto Cellini était une musique absurde. Savante peut-être, mais savante jusqu'à en être inintelligible. L'œuvre de M. Hector Berlioz était bien et dûment condamnée aux flammes avant d'avoir été entendue. Théophile Gautier, quant à lui, en grand témoin de son temps, ne peut s'empêcher de voir dans cette création de Cellini une sorte de bataille d'Hernani de la musique. Il s'enthousiasme du scandale. C'était un beau temps, un temps de jeunesse et de folle ardeur. La passion et la furie des artistes du XVIe siècle semblaient être sortis de leur tombe comme les nonnes de Robert le Diable, avec leur vivacité de mouvement et leur luxe d'existence. Peu s'en fallut que l'on en vint au coup. Et n'eût été la rigueur prosaïque du code, l'on eût joué des couteaux dans les parterres et l'on ne se fût pas fait plus scrupule que le Benvenuto de daguer un champion de la bande opposée. Préméditation ou non, le mal est fait. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Cellini, égorgé peut-être, pour reprendre le mot de Berlioz, mais pas tout à fait mort. En grand admirateur, Franz Liszt le fait relever pour le donner à Weimar en 1856, après de nouveaux remaniements. Coupe claire, déplacement, fusion, on ne s'y retrouve plus. Le ton même de l'œuvre est modifié, plus grave pour plaire au public allemand. Après les versions de Paris 1 et 2, ce sera la troisième version dite de Weimar. Encore une qui ajoute à la confusion. Pauvre Cellini, on ne sait pas à quoi s'en tenir. On ne sait pas très bien où l'on est. Qu'est-ce que cet opéra? Qu'est-ce que Benvenuto Cellini? Un opéra? Un opéra comique? Un grand opéra? Un anti-grand opéra? Pour le temps, c'est une contrefaçon sans gaieté de l'éternelle et grossière parade qui se joue entre Cassandre, Pierrot, Arlequin et Colombine. Et sous la plume de Théodore Hahn, qu'est-ce sur le théâtre de l'opéra que cette parade ignoble dont on ne voudrait pas sur le théâtre des funambules, scène dégradante qui nous reporte à l'enfance de l'art et qui rappelle le dégoûtant spectacle dont nos fêtes publiques offrent encore le honteux tableau. Aujourd'hui encore, Benvenuto Cellini traîne sa réputation calamiteuse comme une malédiction, aggravée par la difficulté de son exécution et par l'absence de version définitive. Ouvrage martyr et chef-d'œuvre méconnu, résume le musicologue Jean Chantavoine au siècle dernier. Honneur à toi, Berlioz, écrivait Liszt en 1839. Car toi aussi, tu luttes avec un invincible courage. Et si tu n'as pas encore dompté la Gorgone, ne crains rien, les dieux te sont en aide. Ils t'ont donné, comme à Persée, le casque, les ailes, l'égide et le glaive, c'est-à-dire l'énergie, la promptitude, la sagesse et la force. Combat, douleur et gloire, destin du génie. Ce fut le tien, Cellini. C'est aussi le tien, Berlioz.
France Musique. Quel scandale, Jérémy Rousseau.
Berlioz en rage. Qu'on l'entende donc ici dans sa fièvre et sa fantaisie avec un florilège de son Benvenuto Cellini.
C'est bien lui.
C'est lui.
C'est lui.
Seigneur.
me voici. Merci, rassurez-vous, ma chère, je n'ai rien eu que peu de peur. Il m'a fallu tout mon bonheur pour me tirer d'affaire. Ah, c'est une merveille. Oui, prêtez-moi l'oreille et vous en conviendrez, la chose est sans pareille.
Je t'en prie.
Le peuple de Rome, la jeune Teresa, le sculpteur Cellini. Nous écoutions des extraits de Benvenuto Cellini d'Hector Berlioz. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était Quel scandale ? Aujourd'hui, Berlioz en rage. Une émission de Jérémy Rousseau réalisée par Claire Lagarde et préparée par Marion Guillemet avec la collaboration de Laure-Hélène Dufournier. Prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle et Cédric Châtelus. Quel scandale est à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr. Au programme demain, Arvo Pärt est banni.
À réécouter sur francemusique.fr.